Tchatch, le ravi, Radio Grenouille.
C'est le mois du ravi, le centon qui ne baisse jamais les bras, comme le journal régional Pas Pareil qui vient de fêter, avec un numéro 200, son 18e anniversaire. Et revoilà une nouvelle grande tchatch, l'émission politique du ravi sur la grenouille. Au micro pour vous servir, Michel Guéraud du journal régional Pas Pareil qui ne baisse jamais les bras. Et avec nous dans ce studio, puisque c'est aussi le mois des cadeaux, un invité qui nous en fait beaucoup de cadeaux tous les deux ans avec des films qui comptent dans nos vies. Robert Guédiguian. Mais avant de grandement tchatcher, présentons, si c'est encore utile, notre invité. Le plus marseillais des cinéastes est un parfait métèque. Preuve s'il en fallait que vous êtes un pur marseillais. Sauf pour ceux qui ont réussi la prouesse totalement idiote de ne jamais voir l'un de vos nombreux films qui s'y déroulent, je ne révèle pas de secret en rappelant que votre quartier, c'est l'Estac. Vous y avez grandi. Vous êtes né de la rencontre improbable entre un père arménien et une mère allemande. On vous traite parfois de salboche à l'école. Lui est un ouvrier sur les chantiers navals, elle fait parfois des ménages. Un fils de prolo cinéaste, c'est plus que rare sur la croisette un jour de festival de Cannes. Le tapis rouge qui vous conduit à faire des films, c'est la politique et l'amour. Un instit charismatique, Albin Mélan, le père de Gérard, l'un de vos acteurs familiers, vous initie au communisme. Vous adhérez au PC à 14 ans et quand 68 éclate, encore collégien, vous êtes déjà engagé. Mais votre révolution a lieu en 73 à la fac de sciences sociales à Aix-en-Provence, lors de vos 19 ans, lorsqu'une syndicaliste de l'UNEF vous séduit. Ariane Ascaride, votre future femme, et notre Ariane, l'actrice au cœur de la quasi-totalité de vos films. Pour vos 20 ans, en 70, vous la suivez à Paris, où elle entre au conservatoire. Vous y rencontrez René Ferré, cinéaste, dont vous signez un scénario, avant de réaliser les vôtres dès le début des années 80. Et la politique dans tout ça? Vous y restez fidèle, comme à votre idéal communiste, même si vous claquez très vite la porte du parti lorsqu'il renonce, en 77, au programme commun. Comme vous restez fidèle à l'Estac et à Marseille, toujours au centre de votre filmographie, même si vous vivez à Montreuil et travaillez à Paris, où vous avez cofondé Agathe Film, société collective de production atypique, bataillant pour faire vivre le cinéma d'auteur. Vous sortez le 5 janvier votre 23e film, et le 4e qui n'est pas tourné à Marseille, Twist à Bamako, sur un épisode clé de l'histoire du Mali et de la décolonisation. Il y est bien sûr question de politique et d'amour. Vous publiez aussi, au lien qui libère, un livre d'entretien qui somme comme une alerte à 4 mois d'une élection où l'extrême centre-droit, la droite extrême et l'extrême droite se disputent une présidentielle où les gauches sont pour l'instant inaudibles. Son titre, les lendemains chanteront-ils encore? Partageons avec vous ce moment, un moment forcément communiste. Robert Guédiguian, une réaction à ce court portrait?
Très, très condensé, très juste. Donc je suis ravi, hein, y a pas de... C'est mon 22e film, par contre.
Il y a quand même une erreur. Petite erreur. Ah, il fallait qu'il y en ait une.
Il fallait qu'il y en ait une, sinon c'est pas bien. Si c'est trop parfait, c'est pas bien. La perfection, c'est la mort, hein, je veux dire. L'imperfection, c'est la vie. Donc je préfère les choses imparfaites.
D'accord. 22e film. On y viendra tout à l'heure. Peut-être démarrer par cette séquence politique, hein, qui résonne évidemment avec cet essai que vous publiez.
Oui. C'est un moment, je crois, tout à fait tragique et crucial, hein, pour la gauche, pour le peuple de gauche. Je crois qu'il faut absolument que quelque chose se refonde, en fait, qui tienne compte à la fois de la diversité des fragments du peuple, parce que je n'aime pas beaucoup le mot peuple avec un grand P, qui désignerait, qui aurait comme ça une forte unité. Je pense que le peuple est fait de petits bouts de peuple, en fait. Je crois que le peuple est fait de fragments de peuple. Avant, on disait des catégories sociales, on disait des couches sociales, on disait aussi des classes sociales. Voilà. Et puis, d'origines diverses et variées. Je veux dire, il y a évidemment toutes les sensibilités dans le peuple, les sensibilités parfois, religieuses, de provenance, des sensibilités d'orientation sexuelle, etc., etc. Tout ça nous donne effectivement un peuple extrêmement diversifié, ce qui est plutôt une richesse. Et je crois que pour être représenté, le peuple, donc, ne peut pas l'être par un seul parti. Ce que je pensais peut-être il y a 30 ou 40 ans, hein, par un parti d'avant-garde, comme nous disions, qui était en l'occurrence évidemment le Parti communiste. C'est un peu la théorie du début du XXe siècle, hein, la théorie léninistes et trotskistes d'ailleurs. Enfin, de tous les théoriciens du mouvement ouvrier à ce moment-là. Bon, je pense plus ça aujourd'hui, à travers la définition que je donne du peuple, et c'est pour ça que je dis qu'il faut que quelque chose se refonde, et quelque chose ne peut se refonder que sur la base d'une union, en fait, extrêmement large et diversifiée, et donc de toutes ces, toutes, toutes ces, tous ces bouts de peuple doivent être représentés dans cette union.
Là, il y a un petit écart avec peut-être le Jean-Luc Mélenchon et son mouvement, oui. Qui justement, avec un débat en disant la gauche est morte et il faut dépasser, oui. Et on va s'adresser au peuple et pas à la gauche, parce que ça, c'est les appareils, c'est quelque chose du passé.
C'est ça. Alors ce discours, il a un petit peu quand même remisé cette conception-là. Enfin, je dis ça sans aucun, d'ailleurs... C'est une discussion intellectuelle, je ne fais de reproche à personne, nous cherchons des choses, nous réfléchissons, nous analysons le réel, et bon, les analyses changent, je veux dire, voilà, bien sûr, le réel change et les analyses avec. Enfin, il faut que les analyses changent avec, ce qui n'est pas toujours le cas. Alors effectivement, je crois que que pendant un certain temps, les insoumis ont pensé qu'effectivement, il y avait cette espèce d'opposition entre 90% du pays et 10% de richissimes fortunés. Bon. D'élite, en fait, je sais pas, appelons ça comme on veut. Et je crois pas à ça. Donc je crois qu'il faut effectivement une union. C'est pour ça que la stratégie, effectivement, de Jean-Louis Mélenchon jusqu'à la dernière élection présidentielle a été de réunir autour de lui le plus largement possible, mais dans quelque chose qu'il n'appelait pas un parti d'ailleurs, qui avait quand même une forme, je sais pas, une nébuleuse, un collectif, enfin, je sais pas, un mouvement. Et effectivement, ça a donné quand même un résultat très fort. Je veux dire, de ça, on peut lui savoir gré. C'est-à-dire que c'est quand même le monsieur qui est revenu à une élection où il frôle les 20%. C'est-à-dire que sociologiquement, il a remis carrément en marche la sociologie qui était le Parti communiste dans les années 70. Mmh. C'est-à-dire autour de 20%. De gens radicaux, de gens qui veulent un changement radical, de gens qui sont anticapitalistes. Donc il a réussi à refédérer ça. Et je crois qu'il y a une erreur, effectivement, stratégique, toujours sur la question dont on parle là, c'est-à-dire que, après ce score, il aurait pu devenir le leader de toute la gauche, en fait. Et s'il était resté sur une conception de la gauche, de la diversification dont je viens d'expliquer les tenants et les aboutissants, je crois qu'à ce moment-là, il était en position, j'allais dire presque comme l'était Mitterrand auparavant, enfin quelques années plus tôt, 30 ans plus tôt, de réunir autour de lui peut-être tout à la gauche pour les législatives qui suivaient. Il ne l'a pas fait, je suis pas d'accord avec lui de ce point de vue-là. Je suis d'accord après sur des tas de points, et c'est quand même le seul mouvement aujourd'hui. D'ailleurs, à ce jour, c'est le seul mouvement qui a un programme.
Oui, on va y venir. Vous avez une formule toujours sur ce sujet, hein, très 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 radicale dans le livre. Vous dites « il n'y a de populisme que de droite ».
Oui, je crois. Parce que, au fond, le populisme, c'est quoi? Il faut quand même le redéfinir. Le populisme, ce n'est pas confronter sa position, ses idées, son programme au peuple. C'est voir ce que le peuple, grosso modo, à travers une espèce de sondage général, pense des choses, y compris d'ailleurs des mœurs, etc., des choses, bon, et aller dans son sens. Voilà. Bon, les exemples types aujourd'hui, par exemple, c'est évidemment... On suppose qu'effectivement, il y a un souci dans le peuple avec l'immigration. Donc, tout le monde se met à parler d'immigration. Il y a un souci avec la sécurité. On a vu quand même récemment, ce qui est quand même terrible, on a vu quand même un secrétaire général du Parti communiste aller manifester avec des policiers. Alors, non pas qu'un policier assassiné, ça soit pas effectivement grave, tragique, surtout quand c'est par un truand. Bon, voilà, bien sûr, on ne peut que déplorer ça.
C'était à l'appel de l'Alliance Police Nationale, hein, qui est un syndicat à la droite, bien à droite.
Voilà, voilà. Mais pour autant, je veux dire, on ne va pas manifester avec des gens qui, effectivement, avec des policiers qui contestent l'institution de la justice, déjà, donc ils contestent la séparation des pouvoirs, c'est quand même un vieux principe, c'est le principe, presque, de la démocratie, et qui veulent aller vers l'Assemblée Nationale, quand même, je veux dire, donc qui commencent à avoir des gestes et des parcours, on pourrait dire, des parcours de manifester un peu factieux. Ou qui ressemble à des factieux. Bon, voilà. Alors que, voilà. Ça, c'est typiquement, quand Roussel fait ça, pour moi, c'est un geste populiste. Et je dis, c'est de droite, oui. C'est pas de gauche. C'est pas un geste d'un communiste. Un communiste, ou d'ailleurs quelqu'un de gauche, assume ses positions, va les confronter avec, effectivement, le peuple, et va essayer de convaincre le peuple d'aller dans tel ou tel sens, en lui montrant que c'est son intérêt. Va débarrasser, effectivement, comme on disait avant, essayer de débarrasser le peuple de ses illusions. De son aliénation, parfois, disait-on, ou même. Donc, le peuple n'a pas, et je vais dire encore une formule, le peuple n'a pas forcément raison. Personne n'a raison dans l'histoire. Les peuples, ils ont voté Hitler, les peuples, ils ont voté Mussolini. Donc, je m'en fous de la vie du peuple. Je veux dire, c'est comme le public, je compare toujours avec le cinéma. Je veux dire, le cinéma, le public n'a pas raison. parfois il a bon goût, parfois il a très mauvais goût, le public. Mmh. Voilà. Donc je n'ai pas le culte du verdict populaire. Mais c'est vrai qu'il faut faire avec. Montesquieu, d'ailleurs, pour revenir à lui, puisqu'on parlait de séparation des pouvoirs, disait il faut tout faire pour le peuple sans rien attendre de lui. Alors voilà une belle formule.
Alors vous faites partie des gens qui sont un peu malheureux en ce moment, hein, parce que vous écrivez aussi « La position qui consiste à appeler à l'union à gauche est une position idéaliste et réaliste. » Et pourtant, à 4 mois là, de ce scrutin qui continue à rythmer la vie politique en France, hein, qu'on le déplore ou non, la présidentielle, il y a un émiettement total, une dizaine de candidats.
Oui, alors pourquoi idéaliste ? Idéaliste parce que je crois que c'est vers là qu'il faut aller. Comme disait Jaurès, il faut aller à l'idéal. Et pourquoi réaliste ? Parce qu'il faut comprendre le réel. Donc le réel, je sais que le réel de ces partis de gauche, de la gauche aujourd'hui telle qu'elle est structurée, n'est pas propice à se réunir, à fonder une réunion. Donc quand j'appelle à ça, je l'appelle de manière générale, théorique et abstraite, quand j'appelle l'union de la gauche. Je n'appelle pas forcément ces partis-là à se réunir. Soit le Parti Socialiste est mort, cette fois, il est vraiment, c'est le dernier pelleté sur la tombe, là, je veux dire, je crois qu'il est vraiment cuit.
Oui, mais enfin, il présente une candidate, malgré tout, Anne Hidalgo.
Oui, mais qui a fait tête de renoncer, sans renoncer, tout en renonçant, enfin bon, c'est plus rien, quoi. Je veux dire, bon, ils n'ont plus d'argent, ils ont déménagé, ils n'ont plus de siège, ils ont plus, bon. C'est un parti qui est très, 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 très défaillant, qui est au bord du gouffre, qui ne tient que par les élus, d'ailleurs, locaux. Le Parti communiste aussi. Le Parti communiste, il est mort depuis 30 ans, déjà. Bon, il continue à survivre parce que c'est des gros bateaux. C'est des grands mouvements historiques, mais.
Avec la candidature Fabien Roussel, on en parle.
Voilà. Qui est aussi, tout à fait, dérisoire, en fait. Je veux dire, le Parti communiste, ça fait moins que le parti animaliste aux dernières européennes. Bon, c'est une com', alors de quoi parle-t-on? Voilà. Donc, moi, quand je dis ça, je peux pas, évidemment, je n'ai pas la solution, sinon je vous la donnerai tout de suite, d'ailleurs. Mais je crois qu'il faut donc refonder une union de la gauche, mais pas forcément avec ces partis-là, c'est pas forcément le Parti communiste, le Parti socialiste. Je dis aussi dans le livre, de manière tout à fait à la porte-pièce, j'aurais aimé que les Gilets jaunes deviennent un nouveau parti. Peut-être qu'un parti peut exister demain qui ne serait pas un parti ancien, un nouveau parti. Voilà. Les Insoumis sont les derniers arrivés, sont les derniers nés. Il peut être d'autres partis. Le Parti écologiste peut se restructurer d'une autre manière. Il s'est d'ailleurs déstructuré souvent et restructuré souvent. Mais peut-être une nouvelle force arrivera demain.
Et quand vous écrivez aussi, quand je parle d'union, je désigne l'union des idées.
Oui. Et c'est vrai que...
Au-delà des personnes, alors sauf qu'à la présidentielle, c'est toujours incarné.
Ça, voilà, ça, c'est vrai que le premier verrou à faire sauter quand même en France, c'est évidemment la Ve République, en tout cas le régime présidentiel. Parce que c'est sûr que là, on est... cette chose étrange qui a fonctionné, qui était à la main du général de Gaulle, quand même, je dirais, et qui après tout le monde s'en est emparé, mais je veux dire, bon, et tout le monde finalement a été séduit par cette monarchie constitutionnelle, comme on dit, enfin pour la caricaturer un peu. C'est vrai que ce système-là aujourd'hui est un système justement qui ne représente pas du tout la diversité et qui repose aussi sur l'illusion qu'il y a un seul peuple, puisqu'évidemment l'illusion du régime présidentiel, c'est le corps du roi, quoi. C'est le roi est mort, vive le roi. Il y a une continuité de la France à travers le corps du président de la République. Bon, c'est ridicule. Évidemment, c'est pas plus Hollande que Macron ne sont le corps de la France. Et si c'était le corps de quelque chose, d'ailleurs, ça se prétend être le corps du peuple entier. Et non, ce n'est pas le corps du peuple entier. Ah, bah, plus avec les abstentions aujourd'hui, c'est surtout pas le corps du peuple entier. C'est, du coup, je crois vraiment que si on veut rester sur l'idée de diversification dont je parlais tout à l'heure, des sensibilités, pour trouver un mot, hein, presque des biographies, je dirais. Bien sûr que le peuple est diversifié. Si on veut qu'il y ait une représentation la plus juste de cela, évidemment, le régime parlementaire, c'est 200 fois mieux. Ça n'existe quasiment pas, d'ailleurs, en Europe, de régime présidentiel. Tous les régimes sont parlementaires. Ils ne sont pas plus instables que nous. Ils vivent pas moins bien que nous. La démocratie fonctionne probablement mieux. Je veux dire en Allemagne, en Italie, en Espagne qu'en France.
Alors c'est ce que propose le l'Avenir en Commun, le programme des Insoumis. Alors, je vous rappelle, hein, que vous avez quand même soutenu Mélenchon en 2011, en 2017.
Oui.
Là vous êtes plus tangent peut-être, semble-t-il, quand il présente un parlement de campagne là, qui est présidé par Aurélie Trouvé, l'ancienne porte-parole d'Attaque, avec des Annie Ernaux, écrivaine, des syndicalistes, Xavier Mathieu, etc. Enfin, est-ce que vous pensez que là on va dans le bon sens justement, parce qu'on va sur le terrain des idées,
Je crois qu'il fallait, oui, bien sûr.
C'est trop
si
tard,
vous voulez,
c'est ça, vous avez fait sur l'exil plus tôt.
Voilà. Enfin, c'est-à-dire, j'étais effectivement, j'étais au congrès fondateur, en fait, du Front de Gauche. Voilà un terme que j'aime beaucoup, d'ailleurs. Le Front de Gauche, ça me plaît. Voilà. Parce que ça veut dire qu'il y a plusieurs partis qui font front, qui sont côte à côte et qui font front bon, évidemment, à l'ennemi, c'est-à-dire à l'adversaire, si on peut dire ennemi, si on veut être plus gentil, à la droite, quoi, voilà, à la réaction, au patronat, à la bourgeoisie, tous les mots qu'on a utilisés pendant 2 siècles. Pour désigner effectivement les conservateurs. Bon, évidemment que le Front de Gauche j'ai soutenu, j'ai bien beaucoup espéré. De toute façon, dès qu'il y a eu des unions, j'ai commencé à espérer que le programme commun en 1972, j'étais quand même tout petit à ce moment-là, et puis après j'ai continué à espérer chaque fois qu'il y a eu de l'union. Donc quand le Front de Gauche, quand Mélenchon a quitté le Parti Socialiste, j'ai applaudi des deux mains, j'en rêvais depuis longtemps que le Parti Socialiste se coupe en deux. Puisque dans le Parti Socialiste, évidemment, il y a une tendance historique extrêmement à gauche, il faut le dire. Mmh. Il faut vraiment le dire, ça d'ailleurs, on le dit pas assez. Les socialistes ne sont pas tous mauvais. Voilà, il y a toujours eu des socialistes de gauche-gauche. Surtout dans le nord de la France, d'ailleurs. Mmh. Bon, si on veut financer sur la sociologie du Parti Socialiste. Mais, donc, cette séparation, je pensais que d'ailleurs, beaucoup allaient le suivre, en fait, au Front de Gauche. Et ils l'ont pas suivi. C'est-à-dire qu'il est parti un peu tout seul, quoi. Mm-hmm. Enfin, j'étais deux au départ. Il y avait un député du Nord, d'ailleurs. J'oublie le nom, là, à l'instant. Mais, donc, moi, je pensais que des gens, d'ailleurs, comme Hamon, Philippe Petit, Montebourg, des gens qui étaient au NPS avec lui, à l'intérieur, qui étaient dans la tendance Emmanuelli, dans le Parti Socialiste, auraient pu le suivre à ce moment-là. Il aurait été moins seul. Mm. Et peut-être que les choses auraient changé, mais bon, on peut pas refaire l'histoire. Ça s'est passé comme ça. Donc, je suis très content d'avoir soutenu. Je revendique d'avoir soutenu, évidemment. Puisque et là, si vous voulez, aujourd'hui, comme je viens de dire, si vous voulez, après la présidentielle, où effectivement il a frôlé les 20%, je pense que j'ai un désaccord stratégique. Mais plus stratégique que sur le fond, d'ailleurs, bien entendu que le programme de Mélenchon, comme je disais tout à l'heure, d'abord c'est le seul. C'est le seul qui a un programme. Ce qui est un comble aussi, d'ailleurs. Et c'est vrai que c'est probablement, dans les programmes, celui que je préfère. Voilà, si j'avais, voilà. Donc j'allais dire participer. Tout le monde est désespéré. Hein. Je crois que tous les gens qui font partie du collectif là, sont du collectif autour de Mélenchon, du Parlement qu'il vient de créer, sont tous. Je pense que je suis d'accord avec eux. Après j'y vais pas, je sais pas. On sait plus quoi faire, quoi. Voilà. Mais je crois que quand même autour de la France insoumise, il y a toujours cette idée de pouvoir gagner seul, et je pense qu'ils ne gagneront pas. C'est ça qui me rend fou. C'est que je crois qu'ils vont dans le mur. J'espère que non. Mais je vois aucun signe.
La démarche de la primaire populaire, ça, c'est quelque chose qui vous parle, ou alors vous pensez que c'est un mécanisme? Parce que là, c'est fin janvier, l'idée d'obliger, de contraindre un peu tout le monde à se départager comme ça.
Toutes les démarches qui vont dans ce sens me plaisent, en fait. Je les approuve. C'est des gestes pour essayer désespérément de faire effectivement exister une alternative de gauche. Donc forte, radicale, écologique, sociale, etc., etc. Bon. En même temps, évidemment, elle reste un peu prisonnière de l'élection présidentielle, de fait. Puisque c'est le primaire pour désigner un candidat qui ferait l'unanimité, enfin, qui ferait l'unanimité, en tout cas, qui aurait la majorité, mais à nouveau pour rester dans le régime présidentiel. Bon. Moi, je crois que, il y a eu des positions, assez drôle. Par exemple, je sais que Gérard Mordillard, qui était un ami aussi, vieux camarade, disait, mais pourquoi ne pas boycotter la présidentielle? Voilà. Boycottons la présidentielle et faisons une union la plus large possible aux législatives. Donc, on fait une espèce de politique fiction. Il dit, donc, on boycotte la présidentielle et on a un raz-de-marée à gauche aux législatives. Voilà un bouleversement. C'est la politique fiction, mais c'est assez intéressant. Hein. Donc la primaire reste aussi prisonnière à ce défaut-là, mais je l'encourage aussi, puisque ça essaie de faire quelque chose. Comme moi d'ailleurs, j'essaie de faire quelque chose.
D'accord. Autre propos, hein, c'est un livre politique, alors c'est pas les sujets qui manquent. Hein. Vous écrivez « Le nationalisme est l'ennemi de toutes les révolutions ».
Oui.
Et pourtant, on y est, hein, et plutôt à droite, hein, ce qui s'exprime très très fortement, en tout cas dans les médias dominants, c'est un nationalisme débridé, doublé de xénophobie, pour pas parler de racisme pure et simple.
Eh ben, on peut quand même dire que c'est triste à dire, mais on peut constater que dans toute l'histoire de l'humanité, le nationalisme, en fait, sous cette forme-là, quand il s'agit de nations, sinon il s'agit parfois de communautés, de régions parfois. Mais bon, appelons ça nationalisme. Le nationalisme et le racisme qui l'accompagne, bien sûr, parce que le nationalisme et le racisme, c'est quand même la même chose. C'est les deux. On dit le nationalisme, c'est la haine des autres. Hein. Et c'est sans que dire que le nationalisme et le racisme sont des constantes, hein, et que c'est toujours les idéologies les plus opposées au changement, et un changement qui est forcément de l'ordre, moi me semble-t-il, internationaliste justement, et planétaire. Et Dieu sait si avec les questions écologiques aujourd'hui, avec la mondialisation de l'économie depuis 35-40 ans, les questions internationales se posent, et souvent les solutions des problèmes sont internationales, ne sont pas nationales. Je crois que c'est un peu une évidence de réenfoncer ce bout, de réappuyer sur ce bouton-là. Et pour moi, la grande faillite d'ailleurs du mouvement ouvrier, et j'ai travaillé là-dessus pendant quelques années avant de faire du cinéma, c'est la Première Guerre mondiale, où effectivement tout Jaurès est assassiné, comme vous le savez. Et où les gens qui s'opposent à la guerre sont Rosa Luxembourg, Lénine, pour les différents pays européens. Et tous les partis socialistes de l'époque, il n'y avait que des partis socialistes à l'époque, les partis ouvriers social-démocrates, comme on disait souvent, se précipitent et votent les crédits de guerre, et ça vole la fleur au fusil. Pour défendre quoi? Pour défendre, évidemment, de cette Première Guerre mondiale, les intérêts de tous les groupes capitalistes de l'époque. Puisque c'est la guerre la plus pourrie qui ait jamais existé, probablement, hein. C'est une guerre absolument abjecte et qui est une guerre de brigandage impérialiste, disait Lénine, qui était très juste. Bon, voilà le résultat du nationalisme. Aujourd'hui, effectivement, d'appuyer en permanence sur ce bouton-là, c'est la dernière chose qu'a trouvé, effectivement, ou qu'ont trouvé les théoriciens de droite, pour, effectivement, sauver leur régime et se battre contre le mécontentement, qui gronde quand même, le mécontentement qui gronde sur des questions très à voir avec la lutte des classes, j'allais dire, hein, je veux dire, avec donc le service public, le pouvoir d'achat, les questions des retraites, la question du chômage, etc. Voilà. Ne parlons plus de tout ça, ne parlons que de l'immigration, des musulmans, de l'envahissement, du grand remplacement, etc., etc. Et dans le discours, en tout cas, comme tout ça se dit de plus en plus médiatisé, c'est vrai que là, effectivement, tous les partis, y compris ceux de gauche d'ailleurs, ou prétendus tels, ont une petite tendance, une vague tendance, une inclinaison à se droitiser, à aller dans ce sens-là.
Vous dites l'identité, c'est la biographie, on ne devrait pas en faire un sujet politique, et pourtant, c'est le sujet du moment.
Oui, c'est une erreur. Donc c'est une erreur philosophique, c'est une erreur théorique, c'est une erreur scientifique. Mais c'est comme ça, justement, voilà. Faire de la politique, c'est se battre contre la doxa, contre l'opinion, hein, pour contre l'opinion répandue. C'est vrai que l'identité n'est pas un sujet politique. Moi, je ne connais pas mon identité. Vous l'avez très bien située, d'ailleurs, au début, mon identité, dans votre condensé biographique. Je connaîtrai mon identité définitive, quand je rendrai mon dernier souffle. Hein. Parce que ça se construit, l'identité aussi. Je la construis tous les jours. Encore aujourd'hui, à mon âge, j'ai des orientations, des choses, etc. Je sais pas. Je pensais pas, il y a 20 ans, que j'irais passer un an et demi en Afrique pour faire un film. Aujourd'hui, ça m'influence grandement, en fait, sur le point de vue que j'ai sur le monde. Donc, mon identité s'est augmentée par cette expérience-là. Je sais que j'ai été longtemps, pour des raisons tout à fait... Je prends mon exemple comme exemple, hein, c'est celui que je connais le mieux, mais... J'étais plutôt, effectivement, du côté de la sensibilité du côté de l'Allemagne, parce que j'allais beaucoup en Allemagne quand j'étais gamin, tout ça, avec ma mère, bon, etc., etc. Bon, je me suis énormément ensuite rapproché, par exemple, de l'Arménie. Mais je suis autant allemand qu'arménien. Ou que marseillais, d'ailleurs, ou que de l'Estac, ou que, voilà, etc., etc. Ou que de Montreuil aujourd'hui. En fait, je m'en fous, voilà. Et puis, dans l'identité, évidemment, l'identité n'est évidemment pas que nationale. Enfin, c'est pas la carte d'identité, l'identité. Au sens philosophique, dans mon identité, il y a mes orientations sexuelles. Il y a le fait que j'ai deux filles et pas deux garçons. Il y a le fait que je fais du cinéma et que je suis pas plombier. Enfin, je sais pas. Tout ça, ça fait partie de mon identité. Donc, bien sûr que c'est pas un sujet politique. C'est un sujet passionnant. Justement, c'est un sujet littéraire. C'est un sujet philosophique. C'est un sujet, on peut en faire de l'art. D'ailleurs, on fait beaucoup d'art. C'est toujours avec des biographies qu'on fait de l'art. Tous les gens qui créent avec leur propre biographie. Mais ce n'est pas un sujet politique, je le répète. Et je l'affirme.
Alors, dans votre diagnostic sur la crise des gauches, vous dites plein de choses. Vous dites que c'est une tragédie contemporaine que la politique soit ainsi déconsidérée.
Oui. Oui. Ça, c'est une... Je crois que je...
Et pourtant, vous-même, vous avez pris votre distance. Alors, vous faites de la...
Oui,
là, bon, vous parlez politique.
Oui,
vous...
bien sûr.
Mais les gens l'oublient parfois. Hein, je l'ai rappelé. Ouais. Mais vous avez quitté vous êtes plus en quartier depuis 79.
Oui, mais j'aurais pu l'être à nouveau. Oui. Je veux dire, par exemple, il y aurait, je l'ai dit plusieurs fois, par exemple, se créerait aujourd'hui une grand, je dis ça, c'est pas une proposition. Encore, ça peut être une, non? Se créerait aujourd'hui une grande partie des travailleurs à la brésilienne. Voilà. Qui réunit des tendances, hein. Je veux dire, il y avait des trotskistes, il y avait des curés dans la partie du travailleur, de Lula, etc. Bon. Se créerait demain une partie comme ça, je pourrais rempiler. Je n'ai rien contre le fait d'être encarté. Je n'ai pas, quand je dis ça, quand j'ai quitté le parti, etc., tout ça, je n'ai pas pour autant le mépris de la représentation, de la délégation, etc., etc. Et je dis, et j'affirme, je connais des gens qui sont des maires, qui sont des conseillers généraux, qui sont des députés, absolument d'une honnêteté dingue, qui sont des bosseurs, qui travaillent énormément sur leur sujet, qui se mal rémunérés, je veux dire, voilà, parce que quand même, il faut le dire, je veux dire, c'est pas non plus, il faut arrêter de penser que, 100%, je sais plus quoi, il y a 5000 élus en France. Évidemment qu'il n'y a pas, ces 5000 élus ne sont pas des gens corrompus, pas du tout. Il y en a même qui se sacrifient, qui bossent comme des chiens, quoi. Jour et nuit, le dimanche, toujours, pour effectivement, pour leurs électeurs.
Vous dites même quelque chose qui va un peu à contresens des derniers mouvements sociaux, je pense, les Nuits debout, même de toute façon, les Gilets jaunes, vous en parliez tout à l'heure. Vous dites les organisations sont une nécessité absolue, quelle qu'en soit la forme.
Oui, je pense
pas
ça.
Pas forcément la forme classique, mais en tout cas, forme, une organisation indispensable
pour
vous.
Oui, je pense à ça, alors avec une nuance, du moins avec un corollaire. C'est-à-dire, je pense ça si on se pose la question de la prise du pouvoir. Si on ne se pose pas la question de la prise du pouvoir, on n'est pas obligé. Voilà, je crois on peut intervenir dans le réel sur telle ou telle cause spécifique, spéciale, particulière, à un moment donné. Se mobiliser même très fortement, avec beaucoup de cœur et beaucoup de réseau, y aller, quoi. Et on peut gagner un peu, beaucoup, pas assez, peu importe. Voilà, mais mener ce combat-là. Quand ce combat-là est fini, soit gagné, soit perdu, donc. Et puis, là, on arrête tout, et puis on repart où on veut. À la pêche, etc. On sort de l'action collective. Bon, voilà. Mmh. Et puis, peut-être, 2 ans plus tard, une nouvelle action se présente. Voilà. Ça, il y a des gens qui sont des intermittents du militantisme. Et je trouve, là aussi, c'est pareil, j'ai le plus grand respect pour eux. C'est absolument nécessaire. Parce qu'ils gagnent, ils remportent des victoires. Donc, heureusement qu'il y a aussi cette forme-là d'action.
C'est même une théorie, hein. Les gens disent qu'il faut un archipel de lutte et c'est comme ça, par la base, qu'on va pouvoir reconstruire, mener la bataille des
idées. Je suis d'accord, mais à un moment donné, je veux dire, il y a un moment où, lorsqu'il s'agit de prendre le pouvoir et non pas ça, et non pas d'avoir du pouvoir, cette horizontalité, comme on dit souvent, donne du pouvoir, c'est vrai. Mais ne peut pas être l'outil pour prendre le pouvoir. Voilà. Prendre le pouvoir jusqu'à nouvel ordre. Je vois pas d'autre manière qu'effectivement l'élection. Voilà. Alors on peut évidemment on peut améliorer tant qu'on veut la démocratie représentative, le statut des élus, les salaires, les permanents, un mandat, 2 mandats, la révocabilité, etc. On peut parler de tout ça, bien entendu. Mais l'idée même que la démocratie, dès qu'on est plus de 10, 12, 15, 20, 68 millions, la France d'aujourd'hui. Bien entendu qu'il faut quand même voter pour des gens. Et là, je dis, j'affirme qu'il y a des idées très saugrenues. Moi, je préfère voter pour quelqu'un que tirer au sort. Je préfère voter pour quelqu'un qui, quand même, me parle, me regarde dans les yeux, je le connais. Éventuellement, il est du même quartier que moi. Il me raconte quelques trucs sur ses idées qu'il a, etc. Et je vote pour lui. Après, s'il fait des conneries une fois qu'il est élu, il faut que je puisse pouvoir le virer. D'accord, voilà. Ça, c'est l'améliorer le statut de la représentation. Mais, cette représentation-là, cette démocratie représentative, je pense qu'elle est incontournable. Je ne connais pas d'autre système. Ou alors, je veux bien qu'on m'en propose un autre.
Come on, everybody! Clap your hands! Oh, you're looking good! I'm gonna sing my song. It won't take long. We're gonna do the twist and it goes like this!
Allez, dansons encore le twist comme l'été dernier. Alors là, c'est cette chanson, évidemment, elle a un lien direct avec Twist à Bamako.
Oui.
Votre nouveau film.
Ben, c'est la chanson emblématique. C'est la chanson qui a répandu le twist dans le monde entier. De Shubi Shaker, qui a été traduite. D'ailleurs, Johnny Hallyday le chantait, hein, avec une traduction française. Enfin, ça s'est fait en Italie aussi, partout, quoi. Dans toute l'Europe, dans tout l'Occident. Et c'est donc, évidemment, Twist à Bamako, je pouvais difficilement me passer de cet emblème-là du twist. Alors, il y a d'autres twists. Il y a Twist à Saint-Tropez, il y a une bande musicale, évidemment, très large de ces années-là, et une bande avec souvent des grands succès français. Il y a Claude François, Johnny Hallyday, Dick Rivers, mais aussi, évidemment, de la musique afro-américaine qui commençait à débouler aussi. Donc, il y a Otis Redding, Ray Charles, enfin, bon. Il y a une bande musicale que j'aime beaucoup. C'est un peu la musique, en fait, que j'entendais quand j'avais, bon, quoi, 10 ans, moi, 10 ans, 12 ans, j'étais petit, mais c'est la musique que j'écoutais à ce moment-là.
Alors, Robert Guédiguian, En Afrique, voilà, 22e film, voilà. Je ne me trompe pas cette fois-ci. Pourquoi?
Parce que, en fait, d'abord, c'est une idée de cinéma. C'est-à-dire que quand j'ai vu les photos de Malik Sidibé, qui avait fait des grandes expositions déjà, qui avait eu le Lion d'Or à Venise, d'ailleurs, à la Biennale, et Malik Sidibé, c'était un photographe de ces années-là, qui photographiait avec énormément de talent, il traquait les jeunes partout, dans ce moment de l'indépendance, et donc un moment de libération et d'émancipation. Et bon, les corps se libèrent aussi, c'est-à-dire que tout le monde, ils enlèvent les Africains, commencent à tous aller danser tous les soirs, quoi. Y compris les militants, qui enlèvent leur treillis militaire, avec lequel ils vont battre la campagne, pour prêcher le partage des terres, des récoltes, etc., etc. Et le soir, ils mettent des costards pas possibles, des couleurs pas possibles, des plus extravagants qui soient, pour aller danser dans les clubs de Bamako. On évalue à 200, hein, le nombre de clubs à Bamako dans ces années-là. C'est-à-dire, la ville entière était une fête permanente. Donc, c'est ce moment de... Et j'ai vu les photos de Sidi B, qui sont très belles, avec tous ces jeunes gens, justement. Désarticulés, qui dansent à moitié, presque jusqu'au sol, qui dansent le twist, avec une souplesse, évidemment, comme tous les jeunes gens, quoi. Donc, c'est très beau. Quand j'ai vu ces photos, et que j'ai su que cette fête-là était reliée à l'indépendance et à une tentative, effectivement, de construire un socialisme panafricain par Modibo Keïta, qui est un peu un précurseur de Sankara, Modibo Keïta, hein. Pas un peu d'ailleurs, qui est un précurseur de Sankara. Donc cette tendance-là des grands leaders africains, non corrompus, d'ailleurs incorruptibles, qui essayaient de bâtir effectivement un socialisme africain et donc de sortir du néocolonialisme, je me suis dit que c'était pour moi. Ça m'est apparu évident. Je parlais avec un ami associé, donc d'ailleurs, et coproducteur, qui, je lui ai dit, je vais faire le film. Je lui ai dit, si on met un jeune homme militant à ce moment-là, idéaliste, etc., qui va danser tous les soirs, et très idéaliste et très combatif, je dis, c'est moi. C'est moi. Je vais parler de ma jeunesse, enfin, tout simplement. Je vais parler de mon adolescence. Et j'ai tout mis d'ailleurs, parce que j'ai mis, il a beaucoup lu, il a lu Césaire, il a lu Frantz Fanon, je suis allé jusqu'à mettre l'affiche rouge dans sa chambre, ce qui est tout à fait probable.
Alors là, ça fait débat aussi, hein, c'est un des sujets politiques du moment, c'est cette notion d'appropriation culturelle, on va vous la servir,
oui,
probablement.
Alors ça, je réponds de manière encore plus provocatrice, alors ça, ils peuvent tous venir, c'est-à-dire, c'est pas une appropriation culturelle, c'est à moi. Moi, ce que je dis. Je dis que cette histoire est à moi, comme toutes les histoires du monde, en fait, bien entendu. Évidemment que Tchekhov, ça appartient aux Africains, et les histoires africaines et les grands auteurs africains m'appartiennent, en fait. Je vous jure. L'histoire d'un être humain sur la planète n'est pas la mienne. Je partage à ce moment l'histoire des Ouïghours ou l'histoire des Rohingyas, bien entendu. Et j'ai toujours été l'internationaliste. De ce point de vue, pour moi, ce qui est universel, c'est l'internationalisme. Ce qui n'est pas du tout une négation des particularités. Puisqu'évidemment, j'ai une conception dialectique, en fait, pour rester un bon marxiste, en fait, j'ai une conception dialectique de l'universel. L'universel n'existe que concrétisé dans du particulier, que dans un rapport avec le singulier, enchâssé, encastré dans du... Ça n'existe pas, l'abstraction. Donc l'abstraction universelle n'existe que dans des réalités concrètes. Du coup, si vous voulez, pour le dire d'ailleurs de manière très très claire, tout ce qui est par exemple de l'ordre de la lutte des classes, pour moi c'est universel. Et pour le dire encore plus largement, le combat entre les riches et les pauvres est universel. Donc moi, si vous voulez, en Afrique, je me sens tout à fait à l'aise pour me battre effectivement contre toute forme d'asservissement, évidemment qu'elle soit due à la puissance coloniale ou qu'elle soit interne en Afrique d'ailleurs. C'est-à-dire, c'est mon sujet.
Un homme blanc de plus de 50 ans peut mettre en scène l'histoire d'une jeune malienne.
Oui.
Oui.
Oui, 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 oui. Oui, et même très très bien. Et ce que je dis toujours dans
Parce
ces cas-là...
Parce que là, le dire, évidemment, on ne retrouve pas Gérard Mélan, Ariane Nascarit...
Il n'y a que des Africains dans le film.
Que des Africains dans le film, oui.
Donc, non seulement j'affirme ça, que je peux le faire, bien sûr, mais après, vous savez, pour moi, la réponse, c'est toujours... Parce que, bon, on parle de politique, et j'ai commis un petit essai politique, voilà.
Oui.
Bon, mais, cependant, je continue à penser que... Et avec Brecht, d'ailleurs, que si vous voulez savoir si un cinéaste est communiste, il faut voir ses films, il faut lui demander sa carte du parti. Donc, si vous voulez savoir si ce film est juste ou injuste du point de vue de la réalité africaine et de la réalité africaine de ces années-là, et des répercussions, d'ailleurs, sur ce qu'on peut penser de l'Afrique d'aujourd'hui, eh bien, il faut voir le film. Jugez le film, ne jugez pas le fait qu'un homme blanc a fait ce film avec que des noirs comme acteurs. Voilà, regardez le film. Et moi, je sais que tous les Africains qui ont vu le film adorent le film, bien entendu. Et que j'ai travaillé pendant quasiment 8 mois avec une équipe à 80% sénégalaise qui est enchantée du film, bien entendu.
Avec et des conditions extrêmes, Covid, tournage voilà. Interrompu, repris, etc.
Oui. Et qui se fout éperdument ils n'ont pas vu que le réalisateur était blanc. Ils ont vu le contenu du film.
Alors, on revient à ce livre, à cet essai, hein, mais finalement, on est toujours dans le même sujet. Hein. Les lendemains chanteront-ils encore? Donc, vous signez au lien qui libère. C'est un dialogue, hein, il faut peut-être le rappeler avec Christophe Kangev, qui est rédacteur en chef adjoint de Politis. Et j'en profite pour dire que cet hebdo, en ce moment, se mobilise pour sa survie, hein, pour l'instant avec succès. Mais il y a fort à faire, et donc, allez lire et allez soutenir Politis. Vous réclamez toujours du communisme, hein, mais vous en avez une définition qui est peut-être pas plus très orthodoxe, tout en vous référant aux fondamentaux.
Oui. Non, je vais chercher quand même des choses qu'on n'a pas dit. Je vois par exemple une citation de Marx que je cite dans le film, mais pas la citation la plus connue. Mais c'est vrai que c'est dans le Capital, non? Et qui dit quoi? Qui dit que le communisme, c'est une société qui propose et qui veut établir un monde dans lequel il y aurait libre, et je me souviens plus exactement, et plein épanouissement de l'individu. Voilà. Bon, en général, la mauvaise réputation du communisme, elle est plutôt du côté de la négation des individus. Bon, je pense exactement le contraire. Je pense qu'effectivement, et pour moi j'ai toujours pensé ça, je pense qu'être communiste, c'est effectivement considérer que le communisme, en fait, que l'idée communiste, le rêve communiste, c'est de réaliser un monde ou des moments communistes, comme je le dis, comme vous le disiez tout à l'heure, où individus et société vont dans le même sens. Alors, cette société, ça peut être une société entière, ça peut être un pays, mais une société, ça peut aussi être un village, ça peut être une société, une entreprise, ça peut être une coopérative. C'est pour ça que je parle de moments communistes qui, parfois, dont l'échelle spatiale peut être différente, diverse, et temporelle aussi. Je pense que le moment communiste, ça peut se casser la gueule. Mais ça a existé. Et le temps où ça existait, il faut en garder, effectivement, j'allais dire l'exaltation, il faut en garder la trace, pour essayer de le reproduire, pour voir pourquoi ça n'a pas fonctionné. Effectivement, bon. Et ça, du coup, c'est pas une définition... Je sais pas s'il n'est pas orthodoxe, je sais pas si c'est pas la définition orthodoxe, au contraire.
Peut-être.
J'ai envie
alors,
de dire.
Je vous cite, là, vous dites la motivation individuelle est nécessaire. Toutes les expériences de communisme égalitaire ont échoué. On vous voit défendre les TPE, PME, par exemple.
Oui, voilà, voilà. Voilà. Mais vous savez, ça, par exemple, regardez, dans le mouvement communiste international, il y a eu très vite, par exemple, des tendances comme ça, par exemple, qui s'appelait l'autogestion en Yougoslavie, dans l'ex-Yougoslavie. Bon, c'est des choses qui ont existé. Ces idées-là, elles existent depuis toujours à l'intérieur du mouvement communiste. Et effectivement, je crois que les kibbutz, par exemple, les kibbutz sont évidemment des mouvements communistes extrêmement forts, et où très vite, on s'est aperçu qu'il fallait gérer un peu différemment quand même la rémunération de la force de travail. C'est-à-dire, tout le monde arrive et donne son argent au kibbutz, et on répartit la même somme à tout le monde, alors qu'il y a des gens qui gagnent 10 fois plus que d'autres, parce qu'ils sont tout bibes, alors que l'autre, il est balayeur. Mais en rentrant au kibbutz, c'était ça les kibbutz, au tout début de la forme originelle. C'est ça que j'appelle un communisme égalitariste. Voilà. Je crois que, effectivement, ça a failli. Ça a failli parce qu'il y a une forme d'injustice, même dans la quantité de travail fourni. Vous savez, moi je dis que dans mon entreprise, donc une entreprise capitaliste.
Agathe Film, oui.
Oui. Donc je suis plus d'ailleurs depuis quelques jours, mais j'ai été président directeur général, si tu te souviens ça. Donc voilà, je suis PDG d'une entreprise. Bon. Et le rapport des salaires, par exemple, dans cette entreprise, il est toujours d'ailleurs de 1 à 4. Pas tout à fait d'ailleurs. Voilà. Mélenchon propose une échelle des salaires de 1 à 20. Bon, moi je dis c'est 1 à 4, donc c'est pas égalitariste. Et c'est vrai que je ne pouvais pas être payé, me rémunérer comme la standardiste, par exemple, qui faisait 35 heures pile poil, et qui effectivement, moi je travaillais le samedi, le dimanche, la nuit, etc., etc. Presque un temps de travail, le rapport 1 à 4, il était justifié. Vous voyez, donc c'est pas l'égalitarisme forcené, est une erreur.
Et si je repars
sur l'idée de des marxistes aussi, de la rémunération de la force de travail, vous savez, les forces de travail n'ont pas tous la même valeur. Là, je parle en termes abstraits, je parle pas en termes moraux. Parce qu'il y a des forces de travail qui par exemple, pour se former, on fait des études jusqu'à 30 ans, par exemple. Donc, la force de travail de quelqu'un qui a fait 10 ans de formation ne peut pas avoir la même rémunération parce qu'elle a coûté. Ne peut pas avoir la même rémunération que quelqu'un qui a 3 ans de formation. Ça ne s'interdit pas après la formation tout au long de sa vie, ça ne s'interdit pas. Tout ça ne se fige pas. Mais il faut réfléchir vraiment de manière absolument... Bon, ça, c'est ce que j'aurais fait si je n'avais pas fait de cinéma, mais c'est des questions théoriques qui me passionnent.
Et en même temps, vous dites, face à la crise sanitaire majeure, il y a toutes ces conséquences sociales et environnementales, conséquences ou même causes, la santé, c'est un bien commun,
oui.
Il faut... nationaliser et ne pas indemniser les actionnaires, il faut pas comme en 81.
Mais bien sûr, et je crois qu'il faut être, si vous voulez, je pense qu'être anti-capitaliste, c'est être anti, dans le monde dans lequel nous vivons, c'est être anti-multinational.
Sanofi.
Mais c'est pas, bien sûr, Sanofi, c'est horrible. On donne de l'argent à Sanofi sans arrêt. Je veux dire, c'est effectivement, je pense qu'il faut nationaliser, c'est plus nationaliser d'ailleurs, il faut internationaliser tout ce qui relève des biens communs. D'ailleurs, si on veut avoir vraiment une vraie écologie puissante, évidemment qu'il faut internationaliser ce qui est de l'ordre des biens communs. Donc les transports, l'eau, la santé, etc., c'est des choses qu'il faut internationaliser. Pour autant, donc du coup, vous voyez, c'est pas contradictoire. Je pense que des petites entreprises extrêmement dynamiques, parce qu'il y a effectivement des gens qui, pour des raisons justement biographiques, peut-être par leur identité, qui ont envie de travailler jour et nuit. Voilà. Et ils font des choses. Et ils ont des idées. Il faut absolument profiter de ça. Évidemment, la dynamique du monde, elle est liée aussi à ça. Et je dis pas ça, je hiérarchise pas, évidemment, de manière, ça veut pas dire que celui qui entreprend a plus de qualité, évidemment, du point de vue, des êtres humains, c'est une stricte égalité entre les gens. Mais si quelqu'un veut entreprendre, il faut absolument qu'il le puisse. C'est pour ça que dans des petites entreprises, je veux dire, c'est vrai que la discussion, si j'exagère même, si je descends encore la taille des entreprises, il y a quand même des entreprises dans lesquelles j'en connais, où il y a un plombier avec 3 copains qui font de la plomberie. Je veux dire, bon, c'est même plus une entreprise, oui, c'est de l'artisanat quasiment, bon. Ou même s'ils sont 10, ou je ne sais quoi. Et c'est vrai qu'à une entreprise comme ça, par exemple, on ne peut pas appliquer le droit unique du travail en France. Vous savez, ça aussi, c'est un raisonnement marxiste. Pour qu'une société soit juste, face à des inégalités, il faut que le droit soit inégalitaire. Voilà une conception qu'on a oubliée. Vous voyez, c'est dans la critique du programme de Gotha, je crois. C'est en 68. Voilà, donc c'est des choses, il faut vraiment réfléchir à tout ça. Et je pense que donc l'égalité n'est pas le communisme. L'égalité peut être très injuste.
Alors vous défendez des moments communistes, hein. Vos lendemains qui chantent, finalement, ça peut être des petits lendemains, ça peut être des petits moments.
C'est ça, c'est des petits
matins.
Vous donnez
des exemples très concrets, par exemple, Montsartou, les cantines à Montsartou.
C'est exceptionnel. Montsartou, c'est exceptionnel ce qu'il faut.
Peut-être rappeler en deux mots ce que c'est, tout le monde.
C'est une petite ville, toute une petite ville au-dessus des Alpes-Maritimes, au-dessus de Cannes en plus, juste au-dessus de Cannes, et qui est, c'est un îlot communiste. C'est-à-dire, d'ailleurs, le maire, il n'y est plus, mais le maire était élu à 100%. Il n'y a pas de candidat contre lui. C'est ce que je lui avais dit la première fois que j'ai vu. J'ai dit, vous êtes effectivement un affreux dictateur, ou alors vous êtes un saint homme. En l'occurrence, c'était plutôt un saint homme. Et effectivement, il y a le cinéma, il y a un festival du livre, qui est le deuxième festival du livre de France. Et effectivement, ils ont adopté un système de maraîchage, etc., où leur cantine est autonome, en fait. Et alors quand il y a des gens qui font la cuisine, c'est évidemment pas des plats
100% bio. Voilà, tous les légumes viennent du.
Et ils viennent du village.
Du jardin municipal.
Voilà.
Avec des salariés municipaux.
Tout à fait.
Ça, donc, c'est un moment communiste.
Bien sûr. Comme une entreprise peut l'être, donc, comme un film parfois l'est. Quand tout le monde part dans le même sens pour fabriquer un film, et quand la répartition, quand les salaires sont justes, etc., tout ça, c'est pour moi, c'est des moments où effectivement, je reprends d'ailleurs la définition du départ, où des moments où individu et société, dans ce temps-là et dans cet espace-là, sont tout à fait réconciliés. Si on ne met pas réconciliés, ils ne sont pas fâchés, ils sont en harmonie. Voilà. Et je crois qu'effectivement, il faudrait veiller à veiller. Je crois qu'être communiste aujourd'hui, c'est essayer de créer du communisme autour de soi en permanence.
À une autre échelle, la sécurité sociale en 45.
Voilà, ça c'est exceptionnel. Et c'est pas parce que c'est Ambroise Croizat qui l'a créé, mais il faut quand même. Je l'ai rencontré une fois.
Ministre communiste.
Ouais, qui était ministre communiste et qui a vraiment bataillé, qui est un homme exceptionnel que j'avais rencontré une fois. Il était très vieux, bon, très petit, mais dans un meeting. Qui était formidable. Et c'est vrai que la sécurité sociale, qu'on essaie de gratter sans arrêt, là, je veux dire, tous les pouvoirs en place depuis 30 ans, essaient d'en diminuer l'impact, d'en diminuer la définition. Mais c'est vrai que la sécurité sociale est une chose exceptionnelle, où effectivement tout le monde cotise en fonction de ses revenus et reçoit selon ses besoins. Tout le monde a les mêmes soins. C'est formidable, d'ailleurs. Je trouve ça effectivement génial quand moi-même je vais à l'hôpital pour je ne sais quel réseau, de voir qu'à côté de moi, je vois très bien qu'effectivement, dans le même hôpital, les mêmes soins, le même toubib, la même salle d'attente, il y a des gens qui, effectivement, de catégories sociales absolument différentes.
Vous avez aussi, vous dites du bien dans le livre, hein, mais vous l'aviez dit avant, apprécié le moment où s'est cristallisée la dynamique du printemps marseillais.
Oui.
Un moment communiste aussi.
Oui, tout à fait, justement. C'était parce que le printemps marseillais, j'allais dire pourvu que ça dure, c'est une alliance extrêmement large et c'est une alliance non pas qu'entre des partis, mais il y a aussi des associations dans cette alliance. Donc c'est une alliance extrêmement large. C'est ça que j'aime en fait, que j'ai aimé dans ce printemps marseillais. Je crois que d'ailleurs, ce qui m'a plu aussi, c'est que il ne s'attendait pas à gagner. Donc c'était la preuve par l'exemple que une alliance aussi large que ça, qui repose donc sur la diversité de ses composantes, tout en ayant un point de vue universel, je reviens à la dialectique marxiste, et peut gagner. Donc on se prend à rêver, on se dit effectivement pourquoi ça ne gagnerait pas au niveau national.
Et le fait que finalement il y a eu, ce soit pas le maire qui était prévu au départ, qui soit à la tête du bateau un an plus tard,
ça,
un an
et demi plus tard. Ça c'est vrai que c'était un coup de théâtre, ça change rien. Toutes les tendances du, ça c'est pas une tendance du parti, c'est pas une rupture dogmatique. Bon, il s'est passé quelque chose humainement que je connais pas bien d'ailleurs, qui a fait que voilà. Bon, moi peu m'importe. Justement, je suis pas sur l'incarnation. C'est-à-dire que ce soit Benoît Payen ou que ce soit Michel Rubirola, je m'en fous, en fait. Voilà. Ce que je veux, ce que je souhaite, c'est que le programme qu'ils avaient sur lequel ils se sont battus, d'ailleurs en particulier sur les écoles, les transports, etc., soit respecté. C'est ça que je souhaite.
Il y a le livre là qui fait sonner un titre. Ah, il y a un point d'interrogation quand même sur ce lendemain qui chante.
Oui, bien sûr. Bien sûr.
Il reste assez sombre quand même sur les constats, oui. Sur les blocages. Et ceux qui connaissent bien votre filmographie, c'est que vous regardez de droit dans les yeux là, toute la difficulté de l'époque et de celle de faire vivre ces idéaux communistes et humanistes dont vous parlez. Malgré tout, il y a de l'espoir.
Oui, toujours un petit peu, dit-il, dit-il pas convaincu. Mais non, c'est le mouvement même de la vie, je crois, qui fait que. Alors il y a des périodes plus ou moins exaltantes, c'est-à-dire que bien entendu, mais on prend l'exaltation là où elle est, c'est-à-dire que quand ce dont on vient de parler, le film en Afrique, le printemps marseillais. Des choses comme ça, je dis évidemment, moi, donc j'ai des moments, la création du Front de Gauche, pour moi c'est des moments communistes, il y a pas de raison que ça dure sans arrêt, on peut pas être béat, de toute façon on n'est pas heureux toute sa vie.
Même si ça fonctionne pas, juste à Bamako c'est une belle histoire mais ça qui finit pas
oui,
très bien,
oui,
on va pas raconter la fin du film, en fait, c'est
qui mais les quelques années où ça a bien fonctionné sont éclairantes et il faut continuer, le combat pour moi dans ces cas-là consiste à rappeler ces moments d'exaltation, à les remettre en lumière. Pour dire aux gens de réfléchissez aux raisons aussi des échecs, aux raisons des échecs de ces mouvements-là, et donc essayez de ne pas reproduire les mêmes erreurs. Voilà, si vous voulez, c'est une dynamique permanente qui va de l'optimisme au pessimisme, de l'optimisme au pessimisme. Alors, on peut utiliser tous les oxymores qu'on veut, je suis l'optimisme désespéré, évidemment, le plus connu, c'est la citation de Gramsci, hein, lié le pessimisme de l'intelligence à l'optimisme de la volonté. Voilà.
Vous écrivez, je cherche le bonheur de la victoire, je n'ai aucune complaisance avec le malheur de la défaite.
Voilà.
Pourtant, on s'en prend quelques-unes de défaites.
Oui, oui. Alors, quand je fais ça, c'est-à-dire, oui, mais si vous voulez, quand je le fais, c'est une espèce de. Alors, artistiquement, c'est une chose un peu. Bon, je crois qu'il faut être excessif, hein. Je crois qu'il faut. Il faut pas hésiter à tordre le réel un peu dans un sens ou dans l'autre. Voilà. Donc, j'ai fait des films qui sont très enchanteurs, qui sont des contes, qui sont. Voilà. Évidemment, en général, là, on me reproche d'être trop optimiste et trop béat et trop je sais pas quoi, trop naïf, ce que je suis absolument pas. C'est une qualité d'ailleurs que j'ai pas, la naïveté.
Vous revendiquez l'angélisme. Vous dites, si on me traite d'angélique, voilà. Je prends ça comme un compliment.
Oui, oui, parce qu'il le faut. Parce que parfois, il faut l'être. Parce que parfois, il faut encourager le monde. En l'occurrence, quand je dis le monde, je dis le public, qui éventuellement va voir les films. Parfois, il faut prêcher, j'allais dire, par l'exemple. Donc, faire des comédies, des contes, des films qui se terminent bien. Et qui montre des petits bouts des micro-solutions. Et puis parfois aussi, il faut prêcher par la. C'est les deux grandes tendances de la narration depuis la nuit des temps. Il faut pour la tragédie. Donc montrer des situations qui ne se résolvent pas à la fin, où la situation est aussi tragique à la fin du film qu'au début, et où rien ne va.
Oui, oui. Il y a une affirmation dans votre livre qui me paraît peut-être un élément politique majeur. Vous insistez beaucoup sur le fait que militer est un plaisir, une jouissance, je vous cite, et une réjouissance.
Oui.
Dans la période actuelle, ça.
Oui.
C'est pas commun.
Mais même aujourd'hui, vous savez, les gens qui se battent. J'avais vu encore hier, on faisait un débat justement sur le livre. Et il y avait des jeunes gens, enfin des jeunes filles, des jeunes de trentaine d'années, etc., qui avaient participé à différents comités. Bon, par exemple, au comité de la rue d'Aubagne, des choses comme ça. Ils ont adoré faire ça. Ça leur a plu. Ça leur a semblé nécessaire. Et ça leur a plu aussi. Et ils se sont réalisés en le faisant. Ils ont réalisé quelque chose. Il y a le bonheur de se battre pour les autres aussi. Il y a un bonheur dans l'altruisme, hein. Même si c'est bien, bon. Et donc, c'est pourquoi je dis ça? Je dis ça parce que il faut pas penser, c'est pas sacrificiel, quoi, de militer. Effectivement, on y trouve soi-même, on se forme, on s'enrichit, donc on s'en trouve augmenté, enfin, de notre action collective. Et c'est vrai, c'est pour ça que je pense que c'est une activité, puis on apprend beaucoup de choses, hein. On apprend à parler, on apprend à parler en public, on apprend à réfléchir ensemble, on apprend à écouter les autres, éventuellement. Voilà. Non, non, c'est très très riche. C'est une école de la, c'est une école, c'est des travaux pratiques, on va dire. Voilà, on apprend autant qu'à l'université dans une activité militante. Regardez d'ailleurs le nombre de cadres qu'on a vu sortir comme ça. Ça, c'est aussi des très beaux exemples, sortir du mouvement ouvrier. Hein. Je veux dire, mais pour le nommer, je veux dire, mais quelqu'un comme Berry Gauvois, qui est un électricien, qui devient ministre des Finances, c'est quand même exceptionnel. Voilà, c'est des beaux exemples.
Et quelles que soient les formes, parce que les Gilets jaunes, on en parlait tout à l'heure, et des limites sur finalement ce qui est devenu le mouvement, mais les ronds-points, c'était des lieux de rencontre
oui.
aussi.
Oui, très beau, je trouve. L'idée de se retrouver là, que des gens puissent prendre conscience qu'ils ont les mêmes intérêts aussi. Ils ont quand même pris un petit peu de la conscience de classe, en fait, en faisant ça. Ou de sentiment d'appartenir à une communauté, qui a la même place dans les rapports sociaux, donc une place dominée, et qui se réjouissait de plus être seuls, les gens qui étaient là, sur les ronds-points. Je crois qu'ils avaient envie aussi de, parce que évidemment après il ne se raconte pas que des histoires d'ailleurs de lutte. Quand on est une nuit entière sur un rond-point, on se parle aussi de sa famille, de sa vie, on raconte son histoire personnelle, donc tout ça est très enrichissant, très socialisant, très chaleureux.
Et vous écrivez, il n'y a pas de mouvement spontané qui ne soit pas nécessaire.
Oui, c'est-à-dire que, parce que évidemment parfois on a pu dire, et ça, c'est la droite dit régulièrement ça depuis toujours. On a dit, il y a des élections, il y a des gens élus, on a voté. Qu'est-ce que c'est cette contestation? Qu'est-ce que c'est ces 200 000 personnes? Puisqu'on disait à peu près 200 000 au début. Ces 200 000 personnes, bon, c'est pas la France. Enfin, ce qui est d'ailleurs toujours un mensonge, parce qu'on sait que quand il y a comme ça 200 000 personnes dans la rue, ils représentent beaucoup plus que 200 000 personnes, bien sûr. C'est la face émergée de l'iceberg, hein, je veux dire, bien sûr. S'il y a 200 000 personnes tous les samedis dans la rue, c'est qu'il y a énormément de gens qui les soutiennent, même s'ils n'y vont pas dans la rue avec eux. Ou pas toujours, ou moins souvent. Voilà. Donc le mouvement était beaucoup plus large que 200 000, bien entendu. Et c'est vrai qu'il n'y a pas de... ça serait contester le réel de penser qu'il y a une irruption manipulée, etc., je ne sais quoi. Voilà. Non, quand les choses sont trop graves, quand les choses s'accumulent, les régressions d'ailleurs, pour le dire comme ça, les régressions sociales, en fait, les régressions salariales, les régressions sur le monde de vie, etc., quand les gens s'aperçoivent de ça, bon, à la fin, ils n'en peuvent plus, et puis, de toute manière, de toutes les manières, organisées ou pas, ils descendent la langue.
Alors, l'émission va se terminer. Un mot pour finir. Finalement, le twist comme emblème, c'est ça le...
Oui, parce que vous savez pourquoi le twist est peut-être un emblème? Parce que le twist, c'est effectivement la fête. Dès qu'on écoute le twist, même si on a 12 ans aujourd'hui, qu'on n'est pas du tout contemporain de ce moment-là et tout, ben on se met à bouger. Voilà. Donc le twist, ça met en mouvement.
Robert Guédiguian, merci. Et on se donne rendez-vous l'année prochaine pour une émission politique sur Grenouille.
Jackie.